Vous écoutez, on lit pour vous.
Connecter les cultures, un texte d'Anne-Laure Janson, de l'Itinéraire, paru le 21 juin 2025 dans la presse. Elles sont respectivement Inuk, Atikamekw et Innu. Elles sont âgées de 27 à 36 ans et sont engagées à défendre leur culture et à créer des ponts. L'Itinéraire s'est intéressé au pouvoir des plateformes numériques et à leur utilisation par les artistes Isabelle Chapado et Catherine Boivin, ainsi que par l'experte en enjeux autochtones et blogueuse Audrey-Lise Roch-Hervieux. Isabelle Chapado, les futures générations méritent un avenir plus que sain. C'est en 2019 qu'Isabelle Chapado a créé son premier compte TikTok en anglais, inspiré par le mouvement hashtag Black Lives Matter. J'y partage ma culture, je montre la réalité des Inuits, je dénonce des situations. Elle a ensuite ouvert un compte en français, suivi aujourd'hui par près de 47 000 personnes, jugeant qu'on ne parlait pas assez de la culture autochtone sur les réseaux sociaux francophones. Elle crée ainsi des ponts entre le Nunavik au Québec et le territoire du Nunavut dans l'archipel arctique qui ont beaucoup en commun. Elle publie aussi régulièrement sur Instagram des images illustrant son quotidien et les enjeux sociaux dans les communautés comme le coût exorbitant de la vie ou la crise récurrente du logement. Elle considère les réseaux sociaux comme un point de départ pour poser des actions concrètes et mobiliser des personnes. Isabelle Chapado a grandi à Sept-Îles en faisant fi de la culture de sa mère, originaire du Nunavik, et morte quand elle avait 2 ans. Isabelle portait le nom de sa mère. Elle témoigne: j'aimais pas du tout ça. Je voulais à tout prix être assimilée. Il y avait énormément de racisme à cette île. Quand je disais que j'étais blanche, j'étais traitée différemment. Les Autochtones, c'était des voleurs. Au secondaire, elle a pris le nom de son père. Adolescente, elle plonge dans sa culture maternelle et à 19 ans, elle déménage à Iqaluit. J'avais enfin l'espace d'être moi-même. J'ai toujours été en contact avec mes grands-parents là-bas. J'avais beaucoup à apprendre, dit-elle. Aujourd'hui, la jeune femme partage sa culture avec tact et générosité. Souvent, quand j'entends des critiques, c'est que les gens manquent d'éducation, constate-t-elle. Il faut respecter ceux qui crient fort pour nos droits. On a le droit d'avoir des territoires juste à nous, de se réapproprier notre culture, notre art, notre langue. On doit nous inclure dans les décisions. Les futures générations méritent un avenir plus que sain. Catherine Boivin, l'humour au service du militantisme. La cinéaste et artiste multidisciplinaire Catherine Boivin est active sur les réseaux sociaux depuis 5 ans. Elle évoque des sujets graves en piquant son public par le rire. L'humour fait partie des cultures autochtones, dit-elle. C'est important d'être en mesure de rire de soi-même, et ça a été notre médecine. Selon la jeune femme originaire de Wemotassi, dans l'agglomération de Latuk, qui compte plus de 33 000 abonnés sur TikTok, les réseaux sociaux ont libéré la parole et créé des liens. Grâce à eux, on peut toucher d'autres personnes qui vivent la même chose que nous, explique-t-elle. Cette forme d'expression lui a permis de mettre les mots sur ce qu'elle vivait. Catherine Boivin tient aussi à ce que les jeunes autochtones voient qu'ils ont une place, qu'ils peuvent la prendre et montrer qui ils sont sans avoir honte. Elle espère que casser les clichés et informer feront en sorte que sa fille ne subisse pas de propos racistes, comme elle en a reçu sur les réseaux sociaux. Même si certaines choses sont difficiles à dire, il faut qu'elles soient nommées, conclut-elle. Audrey Lise, Roch Hervieux, des mots bien choisis peuvent aider à guérir. Audrey Lise Roch Hervieux a créé le blog Maman Autochtone en 2022 après avoir été collaboratrice au populaire blog La Parfaite Maman Cinglante. Originaire de la communauté Innu de Pessamit, elle a commencé à écrire pour raconter une expérience douloureuse vécue 10 ans auparavant. « J'ai exprimé ce que je portais », dit Audrey-Lise Roch Hervieux. « Même si j'avais peur, ça a résonné chez d'autres femmes. Les échanges qui en sont ressortis m'ont permis de me sentir utile et ça m'a beaucoup nourrie. » Pour elle, les réseaux sociaux, ce n'est pas juste une communauté numérique. On partage, on réalise que l'on n'est pas seul. Des discussions viennent allumer des choses chez moi et m'inspirent pour écrire. Mère de 2 enfants de 5 et 8 ans, elle est très engagée auprès des jeunes générations. Audrey Lise Roch Hervieux a reçu, le 21 mai 2025, le prix Reconnaissance jeunesse autochtone du gouvernement du Québec pour ses contributions au programme scolaire des élèves du primaire qui peuvent ainsi découvrir la culture autochtone. « Je souhaite que les jeunes aient confiance en eux, dit-elle, qu'ils n'aient pas à choisir entre deux mondes, qu'ils n'aient pas peur d'affirmer leur identité. Je souhaite qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils vivent sans compromis, sans préjugés. » La militante porte sa culture avec beaucoup de respect et a le souci de transmettre ses savoirs à ses enfants. Une de ses plus grandes fiertés est qu'il parle Innu Aimun. À la maison, il y a une règle très importante. On se parle dans notre langue et je les encourage à faire pareil à l'école, même si mon garçon me trouve tannante, dit-elle en riant. Les réseaux sociaux lui ont permis de s'épanouir. Ça a été un tremplin. Lorsque les mots sont bien choisis, ils peuvent guérir et rapprocher. Si ma voix peut aider à faire voir notre réalité autrement, j'accepte ce rôle avec respect. Il y a encore beaucoup de préjugés quand on parle des Premières Nations. C'était « Connecter les cultures », un texte d'Anne-Laure Janson de l'Itinéraire, paru le 21 juin 2025 dans la presse.
Semer l'espoir, mois de la fierté 2025. Un blog de Marie Constant paru le 12 juin 2025 sur le site du Comité franco-queer de l'Ouest. Pour marquer le lever du drapeau de la fierté à Edmonton, le 11 juin 2025, le Comité franco-queer de l'Ouest, CFQO, a invité quelques membres de la communauté à partager des discours et des témoignages. Marie Constant, amie de longue date du CFQO et jeune leader francophone, a laissé la foule émue par ces mots. « Je suis une femme de foi, queer, canadienne-française d'origine haïtienne. Je suis culture, héritage, éducation, cœur, passion, aventure. Je ne suis pas seulement une couleur. Ma peau, ce magnifique phénomène, est une histoire vivante. Et mes cheveux, une couronne tressée par mes ancêtres. Ces cheveux ont protégé, résisté, survécu. Ils portent les récits que nos livres ont trop souvent effacés. Je suis descendante de lignées entières rejetées des manuels d'histoire, effacées des statues, oubliées des récits fondateurs. Des peuples dont le sang coule sur cette terre même, depuis bien plus longtemps qu'on ne le reconnaît. Je ne suis pas la première. Je ne suis pas une anomalie. Je suis non représentée. Je fais partie de ces enfants qui ne se sont pas vus au centre de l'histoire, ni dans les luttes, ni dans les victoires, ni dans les défaites. Des enfants à qui l'on a assigné une place plutôt que d'en offrir une. Des enfants qui ont grandi sans la force, la fierté, ni l'énergie que donne le fait de se reconnaître dans ceux et celles qui bâtissent. Je suis aussi descendante de soldats, d'éducatrices, d'artistes, de bâtisseurs, dont les sacrifices n'ont jamais été chantés. Et pourtant, ils ont rêvé ce jour. Un jour où les drapeaux se lèveraient sans honte pour célébrer toutes nos identités. Aujourd'hui, je prends la parole dans un contexte où la haine remonte à la surface. Elle cible les jeunes, les personnes trans, les familles 2SLGBTQIA+, particulièrement celles racisées ou issues de l'immigration. La peur monte, les lois se durcissent, les mots deviennent armes. Et pourtant, nous sommes encore là. Colorés, courageux, courageuses, enracinés dans la dignité. Car porter une identité queer et être issu de l'immigration, ce n'est pas simplement exister à l'intersection de deux mondes. C'est souvent devoir négocier sa survie dans les deux, dans sa propre famille où le silence est parfois une question de sécurité. Dans la société où l'on doit prouver qu'on mérite d'être vu, protégé, célébré. La double marginalisation nous vole souvent la tranquillité, mais jamais notre humanité. Alors aujourd'hui, je rêve, encore, d'une plateforme. Une plateforme pour éduquer, pour amplifier l'histoire de celles et ceux qu'on n'a pas voulu voir. Un espace où les enfants comme moi peuvent se reconnaître dans la lumière. Un espace où l'on n'est pas une parenthèse, mais une phrase centrale du récit collectif. Que ce drapeau qui se lève soit un rappel, pas une exception. Un rappel que notre fierté est résistance, que notre visibilité est guérison, et que chaque jeune queer, racisé, immigrant, immigrante, mérite de grandir sans peur. Aujourd'hui, je choisis l'espoir, et je le sème à voix haute. C'était « Semer l'espoir », Moi de la fierté 2025, un blog de Marie Constant paru le 12 juin 2025 sur le site du Comité Franco-Queer de l'Ouest.
Le coroner dénonce l'absence de mécanismes pour protéger les enfants exposés à la violence conjugale. Un texte d'Elena Mayer, paru le 18 juin 2025 dans Le Devoir. Quelques jours après avoir été arrêté pour harcèlement envers son ex-conjointe, un père a tué ses deux enfants de 3 ans avant de s'enlever la vie. Ce drame, survenu en août 2023, aurait pu être évité, conclut un nouveau rapport du coroner qui cible les graves lacunes dans la protection des enfants dans un contexte de violence conjugale. Dans son rapport, le coroner André Quentin recommande plusieurs moyens de mieux protéger les enfants, notamment outiller les intervenants en amont pour qu'ils repèrent les facteurs de risque et renforcer les filets de sécurité autour des enfants dans des situations de contrôle coercitif. Il traquait la mère des enfants, se présentait chez elle, lui envoyait de façon répétée des messages textes et des appels fréquents, écrit le coroner dans son rapport. En août 2023, M. Lamontagne a été interpellé devant le domicile de la femme pour harcèlement criminel dans un contexte de violence conjugale. Il a ensuite été relâché sous promesse de comparaître. 2 jours plus tard, il a tué ses 2 fils, Antoine et Tristan, des jumeaux âgés de 3 ans, avant de s'enlever la vie à son domicile de Notre-Dame-des-Prairies, au nord de Montréal. L'enquête des policiers à la suite de la découverte des corps de M. Lamontagne et des enfants, témoigne du potentiel de violence qui s'est malheureusement matérialisé, explique le coroner. Toute cette violence est dirigée vers la mère des enfants. Ces gestes peuvent s'apparenter à un règlement de compte pour présenter une forme d'emprise sur elle, au-delà même de la mort de M. Lamontagne et de ses enfants. Facteur de risque. Même s'il n'y a jamais eu de violence physique dans le couple, envers la femme et les enfants, les facteurs de risque étaient bel et bien présents, estime le coroner. L'ensemble de tous les éléments énoncés dans la plainte pour harcèlement criminel en contexte de violence conjugale portée par la mère des enfants constituaient des facteurs de risque importants, mentionne-t-il. Les policiers pouvaient considérer ces facteurs de risque pour mieux évaluer la dangerosité de la situation et édicter des conditions plus contraignantes pour assurer un filet de sécurité pour les enfants. Un autre des angles morts soulevés par M. Quentin touche au rôle des médiateurs familiaux qui pourraient déceler des indices de contrôle coercitif. Il recommande au ministère de la Justice d'analyser la possibilité de rendre obligatoire le dépistage des manifestations de contrôle coercitif par les médiateurs familiaux et, le cas échéant, d'établir un protocole qui permettrait aux médiateurs de mettre fin à la médiation et de référer les victimes vers des ressources spécialisées. Au total, le coroner formule 9 recommandations, dont la formation continue des policiers sur la violence conjugale et le contrôle coercitif. Des mesures réclamées depuis longtemps. Le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales appuie ces recommandations qu'il réclame depuis longtemps. S'il y a un apprentissage à faire dans ce rapport, c'est l'importance pour toutes et toutes les professionnels impliqués, de près ou de loin dans une situation de violence conjugale, de mettre la sécurité des enfants au cœur de leurs préoccupations, écrit le regroupement dans un communiqué de presse publié mercredi. Il faut s'assurer que le filet de protection s'applique également aux enfants. Simon Lapierre, professeur à l'École de travail social de l'Université d'Ottawa et spécialiste des violences faites aux femmes et aux enfants, abonde dans le même sens. On n'a pas de mécanisme efficace pour assurer à court terme la sécurité des enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale et de contrôle coercitif. Pour lui, ce drame est le symptôme d'un système qui échoue à intervenir à temps. Ça fait plusieurs années que je répète qu'il faudrait y réfléchir, qu'il faudrait s'assurer qu'on a un mécanisme qui fonctionne, parce que sinon, ça va malheureusement porter la vie à certains enfants. Dans de nombreux cas, comme celui-ci, des mesures restrictives empêchent un homme violent de contacter son ex-conjointe, mais permettent des exceptions pour les communications concernant les enfants. C'est exceptionnel qu'on va imposer un interdit de contact pour les enfants, explique Simon Lapierre. On considère que monsieur est dangereux pour madame, mais on n'évalue pas si les enfants eux-mêmes sont en danger. Si un homme pose suffisamment un danger à sa conjointe pour que des mesures contraignantes soient mises en place, le professeur estime que l'on devrait tenir pour acquis que ce danger est le même pour les enfants impliqués. Ne devrait-on pas considérer que la règle, d'emblée, devrait être de mettre en place des mesures de protection pour les enfants? C'était « Le coroner dénonce l'absence de mécanismes pour protéger les enfants exposés à la violence conjugale ». Un texte d'Elena Mayer, paru le 18 juin 2025 dans Le Devoir.
Visiter la côte lisboète. Un texte de la rédaction paru le 4 avril 2024 dans Voyageurs du Monde. Au départ de Lisbonne, au Portugal, en filant vers le sud, deux estuaires découpent un littoral qui joue les funambules entre puissance de l'océan, douceur des plages et serra préservée. Un road trip plein de charme. Aux portes de Lisbonne, en quittant Lisbonne par l'est, le longiligne pont Vasco de Gama guide vers l'un des sites ornithologiques les plus réputés d'Europe. À quelques encablures de la capitale, la réserve naturelle de l'estuaire du Tage alterne les zones de marais, boues et roselières, flamands et chasses blanches, chevaliers, gambettes et autres oiseaux migrateurs y trouvent là une terre de refuge après de longs vols. Autre possibilité, s'évader de Lisbonne par le sud. Depuis le quartier d'Alcantara, le pont du 25 avril, aux allures de Golden Gate, enjambe le Tage pour rejoindre Almada et la péninsule de Setúbal. En ralliant l'autre rive, on croise un Christ rédempteur toisant le fleuve, les bras ouverts vers Lisbonne, second hommage aux ouvrages célèbres outre-Atlantique. Quelques kilomètres suffisent pour gagner la Costa da Caparica et son ruban de sable, cour de récréation des familles lisboètes qui s'y pressent dès l'arrivée des beaux jours. D'une plage à l'autre, pêcheurs et surfeurs se partagent l'océan. En saison, celles qui s'étirent jusqu'à Fonte da Tella sont desservies par le Transpraia. Aussi doré et brinque-ballant que son cousin citadin, le petit train de bord de mer s'ébranle à même le sable, laissant l'air marin rafraîchir les banquettes. On y grimpe non sans amusement nostalgique, avant d'étaler sa serviette sur la praia du jour. Un peu plus au sud, véliplanchistes et amateurs de pêche sportive se donnent rendez-vous à la Lagoa de Albufeira, vaste plan d'eau frangé de pinèdes et battu par les vents. Serra d'Arabida et estuaire du Sado Ourlant, le sud de la péninsule de Setúbal, la Serra du parc naturel de l'Arabida se déploie sur 35 km de long et 6 de large. Sur son rivage découpé, l'ocre et le blanc des falaises calcaires se détachent du turquoise de l'océan, dans lequel elles se jettent à pic. En contrebas, s'étirent des plages parmi les plus pures de la région. Coincées entre le vert dense du maquis et la paisible Praia da California, dominée par sa forteresse mauresque, le petit port de pêche de Sesisimbra s'est mué en une station balnéaire prisée. En dépit de l'affluence estivale, les traineras, petites embarcations multicolores, accostent toujours au port chargées de poissons. Le versant nord de la Serra dépeint un relief plus doux, tapissé de vignes, vergers et oliviers, d'où se détachent quelques domaines viticoles et localités paisibles. À l'instar d'Azetao, estimé pour ses vins et ses délicieuses tortas, petit roulé à base d'œufs garni d'une crème à la cannelle, alternative gourmande au pastéi. Setúbal, à qui la péninsule doit son nom, marque la frontière entre les collines de la Serra d'Arabida et l'estuaire du Sado. Sur le port, l'activité bat son plein. On y déguste sur le pouce une barquette de choco frito, sèche-frite, on embarque à bord d'un catamaran et on met le cap sur la péninsule de Troya, juste en face. Les dauphins, qui ont élu domicile dans les eaux marécageuses de la réserve naturelle du Sado, accompagnent joyeusement la traversée. En préférant la route, l'estuaire dessine un littoral composé de marais salants, rizières et chênes-lièges, croisant ça et là des villages de pêcheurs ou maisons en roseaux. autre emblème du Sado. La cigogne blanche bâtit son nid sur les cheminées et clochers des églises. En fin d'année, les flamands tapissent l'estuaire d'un voile rose poétique. Lifestyle iodé à Comporta. Au pied de la péninsule de Troia, Comporta est longtemps resté un secret jalousement gardé par ceux qui avaient le bon goût de s'y rendre. Ce coin de littoral préservé offre un sable immaculé, des ondulations de dunes, des bois d'un vert dense et toujours des oiseaux en pagaille. Avec cela, des constructions maîtrisées pour ne pas défigurer la nature. Le bel Atlantique sauvage, bercé par une douceur de vivre un peu bohème et cultivée. On vient aussi pour cette sociabilité iodée assez unique en son genre. Sandalettes en cuir tressées aux pieds, on se joint aux beautiful people. Puis, la route file vers le sud. Rapidement, les plages de Pego et Carvalhal se partagent une même grève. On opte pour une paillote ou, à quelques pas, la solitude bercée par un clapotis plus doux qu'ailleurs. Le large bandeau de sable s'étire jusqu'à la Praia da Vigia, totalement vierge. Laissant les parapentistes à leurs ailes, la lagune de Mélides s'enfonce dans les terres jusqu'au petit village éponyme entre villas d'architectes et maisons blanchies à la chaux. Hindemood. Les dunes et petits ports de pêche de Comporta accueillent maisons d'architectes et boutiques-hôtels rustiques pour le plus grand plaisir des voyageurs hippies chics. Ici, évidence et simplicité se mêlent au charme intact et authentique des lieux où l'on passe l'été pieds nus, à lézarder au soleil ou à surfer à Praia do Pego. Le restaurant Sal est le repère des locaux pour de tardifs déjeuners sous des auvents de canis. Au menu, palourdes à l'ail, sardines grillées et poissons fraîchement pêchés. En fin de journée, en rentrant de la mer, les enfants jouent dans les rizières, tandis que d'autres s'adonnent au far niente, au cœur de cette paisible réserve naturelle. Les habitués se retrouvent le soir pour trinquer chez Cavallarissa, un restaurant atypique caché dans d'anciennes écuries. Attention, portion généreuse, beignets de morue ou tapas gourmande, le tout arrosé d'un vin de la région bien frais. C'était « Visiter la côte lisboète », un texte de la rédaction paru le 4 avril 2024 dans « Voyageurs du monde ».